rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie. Bonsoir, émission de Rockologie ce soir consacrée à la scène psychédélique de San Francisco entre 66 et jusqu'à 72, et ce pour rendre hommage justement à la disparition assez récente d'une icône de la scène locale, Monsieur Marty Balin, qui était ni plus ni moins que le chanteur en chef du Jefferson Airplane, le groupe emblématique de la scène psyché locale. Un petit peu en rivalité indirecte avec le Grateful Dead. Jefferson Airplane, donc on ne les présente plus, hein, c'est vraiment des icônes de la contre-culture américaine, et qui avait de 66 jusqu'à 72-73 marqué les esprits du côté des États-Unis pour incarner justement tout le mouvement contestataire et puis anti-contre-culture et puis anti-establishment. En fait, c'était vraiment des hippies qui s'insurgeaient contre la guerre. Donc, ça a donné quand même des titres assez emblématiques comme ce Volunteers, qui était un cri de ralliement de tous les hippies. On va développer ça et puis faire un tour sur la scène locale de la période. On évoquera bien sûr les précurseurs qui étaient les Charlatans. C'est un groupe, j'en dis pas plus. Alors, on écoute deux extraits consécutifs du Jefferson Airplane, qui peuvent être considérés comme des rois du rock psyché, avec deux guitaristes, Peter Canter et puis Jorma Kekkonen, et puis flanqué justement de l'immense Grace Lick. Ça dépend sur quel critère on se situe. Si c'est physique, c'était une bombe bébé, sinon vocal, c'était une purge. Allez savoir, c'est totalement subjectif. Le Jefferson Airplane, Volunteers, et puis on écoutera un extrait de leur troisième album qui s'appelle Baxter After Bathing.
Private property is target for your enemy. ticking of my footsteps patiently. She sips the hairy air that's worn and wood-swept pleasantly. She does as she pleases, she listens for me. She calls to me from a feather in the meadow to fly to me. He can dance and sing and walk with me. Dreams will fade and shadows grow. She does as she pleases. She waits there for me. She does as she pleases.
I'm doing things that
c'est Rockologie, comme tous les mercredis soirs sur Campus Grenoble 90.8, faisant suite à notre ami Bertrand et sa voix de garage. Ce soir, donc, c'est une émission consacrée à la scène psyché de San Francisco, pour rendre hommage un petit peu à ma manière, suite au décès du chanteur originaire du Jefferson Airplane, Monsieur Marty Balin, qui nous a quitté un peu plus tôt dans la semaine. C'était l'occasion aussi pour moi de me replonger dans ma collection de disques et puis de ressortir Les Merveilles qui étaient sorties justement sous le nom du Jefferson Airplane, qui est devenu, comme on l'a dit en début d'émission, une institution du paysage sonore américain, indissociable de la formation rivale, le Grateful Dead. Alors, ce qui caractérisait un petit peu le style du groupe, c'était les guitares qui s'en mêlaient, la voix de la chanteuse. C'était vraiment typique du rock psyché de San Francisco, un petit peu en opposition à ce que servaient les groupes de Los Angeles, qui étaient un peu plus portés sur la pop à effet immédiat, des choses un peu moins sophistiquées, beaucoup plus sucrées et beaucoup plus accessibles, si j'ose dire. Là, on est quand même sur un registre flirtant un petit peu avec la musique traditionnelle indienne. Enfin bon, ça, c'est toujours mon ressenti. Ils sont largement aussi inspirés du blues. Ils ont puisé leur racine dans le blues des Noirs américains. Et ils ont incorporé des règles de la musique jazz, le jazz modal. Et puis surtout la musique indienne traditionnelle, avec l'incorporation de lignes mélodiques sous une seule ligne, sans variation. Le Jefferson Airplane, donc, c'est un groupe qui commence en 65 jusqu'en 73. Qui fera un petit peu partie de toutes les batailles anti-establishment, ça on l'avait dit. Et puis c'est un petit peu le fer de lance de la scène hippie. Les hippies, il faut peut-être rappeler ce que c'était. C'était des jeunes gens qui vivaient d'amour et d'eau fraîche dans les rues de San Francisco. Et il y avait aussi tout un ensemble d'infrastructures qui avaient été mis en place par les musiciens, qui étaient plus ou moins de la même génération que les hippies. Ils avaient tous une petite vingtaine. Et ils croyaient quand même en une vision de la vie totalement utopiste, à tel point qu'ils avaient mis un système de gratuité dans toute la ville de San Francisco, ce qui avait prévalu un afflux massif de jeunes gens en quête de sexe gratuit et puis de bouffe à l'œil. Voilà ce qui pouvait être dit sur San Francisco de l'époque. Ça a duré qu'un été, heureusement, parce que ça aurait été l'anarchie, il faut le dire. Et puis ça a permis aussi à tout un contingent de musiciens, parfois fauchés, parfois clochards, de percer sur le marché et puis de vendre des disques. Et alors le premier album, enfin le premier groupe qui vient un petit peu à l'esprit, c'est les Charlatans, pour deux raisons. Parce que c'était les premiers à vraiment, des contemporains d'un groupe qui s'appelait Gay Society, qui avait vu les débuts sur disque de Grace Lick. Mais pour revenir aux Charlatans, c'était un collectif de musiciens qui avait son bar, le Red Saloon, et qui faisait partie d'un groupuscule engagé politiquement. Et puis c'était surtout les premiers à avoir utilisé puis expérimenté le LSD. Le LSD, la substance qui était un petit peu en vente libre dans la ville, avant que le gouvernement américain se rende compte que c'était une drogue et que ça allait faire péter la pétoire. Timothy Leary était de la partie, évidemment, jusqu'à son exil en 63. Mais pour en venir au Charlatan, c'est l'un des premier groupe pionnier dans le blues psyché, les premiers à avoir expérimenté le LSD sur scène, et puis les premiers surtout à avoir eu l'idée de brancher les guitares sur l'épidale fuzz. On va écouter justement un extrait de leur unique album qui est sorti en 66-67. Les Charlatans, c'est maintenant de Rockologie.
Look down the barrel, baby, see the undertaker, man. Undertaker Man. My pistol, got to shoot my Gatling gun. Got to shoot my pistol, got to shoot my Gatling gun. You made me love you, baby, now your man has come. Got a 3220, baby, built on a 45 ring. Got a 3220, baby, built on a 45 ring. You can look down the barrel, baby, see the Undertaker Man. Look down the barrel, see the Undertaker Man.
Rockologie, Campus Grenoble 90.8 qui paye son tribut à la scène psyché, mais pas que, puisqu'à l'instant, psyché de San Francisco, faut que je termine mes phrases impérativement, sinon ça va être incompréhensible. Flaming Groovies, qui était aussi originaire de San Francisco, et qui eux, et s'affichait plutôt dans un registre un peu rock'n'roll, un petit peu en rupture avec ce que proposaient les groupes de la période. Sauf que eux, ils avaient sorti leurs albums, leurs premiers albums dans les années 60, ce qui fait que je ne suis pas totalement hors sujet, et que sur certains tricks, il y avait évidemment des pédales distorsion, comme ils en avaient sur pas mal de disques de l'époque. Les Flaming Groovies, super snaz, première mouture du groupe, puisqu'il faut savoir que le groupe a connu plusieurs vies, une vie américaine évidemment, et puis avant de s'expatrier en Angleterre, puis devenir par la force des choses un ambassadeur incontournable de la scène power pop anglaise. Mais pour l'heure, les Flaming Groovies étaient drivés par Roy Looney, l'immense Roy Looney, qui était vraiment un fan pur et dur de rock'n'roll, un petit peu à la Eddie Cochran, enfin Buddy Holly, tout ça. Et puis bah, il était flanqué du line-up originel, à savoir il y avait Cyril Jordan, il y en avait plein. Hein. Bon, je vais peut-être pas vous m'amuser à vous les immurer comme ça, c'est totalement secondaire. L'album, quant à lui, s'appelle Super Snaz, et puis il proposait ce petit mini-hard disque qui s'appelait Pagan Rachel, qui je trouve faisait bien bien la transition avec le titre de Charlatans, avec leur côté un petit peu suranné, et puis leur musique de comptoir. Et puis là, c'est là que les choses sérieuses commencent. Après avoir ouvert l'émission avec le Jefferson Airplane, on va continuer sur un disque qui est totalement un psyché dans l'esprit et dans la forme, et hippie dans les textes. C'est le premier album d'un musicien qui commençait aussi à faire pas mal parler de lui. C'était David Crosby, qui était en vacances des Byrds, où je pense qu'en 70, il avait été limogé par Roger McGuinn pour divergence, puis surtout je pense qu'il y avait des problèmes de dope derrière, enfin bon bref. Quoi qu'il en soit, l'album est vraiment un pur bijou. If I Could Only Remember My Name affiche comme ça les couleurs du son de l'époque, un rock affichant une orientation jazz très libertaire, sans aucune structure, enfin ça part dans des trames mélodiques très, très planantes. Alors, il y avait des membres, évidemment, formation de la scène locale. Je pense notamment à Phil Lesh de Grateful Dead. Mais il y avait aussi deux guitaristes de Jefferson Airplane. Mais je pense qu'aussi, il y avait Grass Lick derrière au chœur. Bon, il y avait quand même un gros contingent de musiciens talentueux sur cet album. On va écouter justement Laughing pour nous faire rigoler, puisque c'était un petit peu... La finalité de l'herbe, ça faisait rire, et oui.
I thought I met a man who said
C'est vrai qu'à l'époque, un musicien avait vraiment le cerveau bien dérangé. À l'instant, c'était Steve Miller Band avec ce qu'on peut considérer l'un des grands groupes du blues rock psychédélique californien. Sauf que les trois premiers albums, ou tout au moins les deux premiers, avaient été enregistrés du côté de Londres. Et les projets studio avaient été chaperonnés par l'ingénieur en chef des Rolling Stones, Glyn Jones. Alors pour en venir un petit peu à la jeunesse de ce groupe, il s'articulait autour d'un bluesman un petit peu précoce. Il avait commencé très très jeune à jouer de la guitare, un petit peu à la même manière qu'un Eric Clapton. Sauf que lui, il a vraiment une approche plus, on va dire, portée sur les pédales d'effet, la distorsion, et puis surtout, comme ça se faisait à l'époque, les motifs psychédélisants. L'album sort en 68 chez Capitol, il s'appelle Children of the Future, et on s'est écouté Baby's Calling Me Home, Steve Miller Band. Puis là, on va rester un petit peu sur les mêmes auspices, avec toujours ces guitares flamboyantes, et puis une rythmique un petit peu plus martiale. Un groupe qui s'appelait CAC, et qui s'articulait autour de Gary Yoder, qui lui aussi avait fait quand même pas mal parler de ses talents de musicien dans différentes formations, je pense notamment à CAC et puis la suivante Blue Cheer. Alors Blue Cheer avait une importance particulière puisque ils sont considérés comme les pionniers, les précurseurs de heavy metal pour avoir on va dire torturé et puis un classique du rock des années 50, le Summertime Blues d'Eddie Cochrane. Alors, la formule de groupe consistait à pousser les potards, c'est-à-dire le volume sonore de leur guitare à fond, de mettre de la distorsion sur la batterie, puis de chanter d'une voix assez, on va dire, gutturale, très aiguë, quoique. Enfin bon, c'était vraiment à cheval entre le très, très grave et puis l'aigu. Alors, ce qui avait aussi un peu marqué les esprits, c'est qu'ils jouaient à trois, chose assez rare pour la période, puisque je pense qu'ils préfigurent un petit peu Cream, le groupe de Eric Clapton, Ginger Baker et puis Jack Bruce, et qui jouaient essentiellement regroupés sur scène avec des amplis aussi grosses que la scène. C'est vous dire du volume sonore que pouvait dégager le groupe sur scène. On s'écoute dans l'ordre CAC, et puis juste derrière, ça sera Blue Cheer, mais sous des auspices un peu plus, on va dire, un peu plus cool. CAC.
While taking a measure, they wanted to take it. Two chapels of pleasure, they work at their leisure. They wanted to make it, it's very commercial. Just speak for director.
I love you in England.
Telling people things about you is not exactly the easiest thing to do. Send us a signal, we'll show you what's coming. Our numbers are growing, while they're overloading. We'll find the resistors and blow their transistors. Telling people things about you is not exactly the easiest thing to do.
voilà ce qui caractérisait aussi un petit peu le rock psyché de la West Coast, hein, quoique plus généralement le rock psyché mondial. C'était les emprunts qu'avaient fait les musiciens de la période à la musique traditionnelle indienne, avec justement ces espèces de plages sonores sans aucune variation de ton qu'on appelait le modal. J'en avais parlé un petit peu en début d'émission. C'est sur une ligne, on va dire, mélodique, linéaire, comme ça, avec très peu de variations, et puis une petite mélodie aigrelette qui s'égrène comme ça tout au long des mesures. Blue Cheer, donc, on l'avait dit, on l'avait vendu comme étant un précurseur du heavy metal, mais pas que, ils avaient fait d'excellentes choses sur leurs albums suivants, puisque l'album Vincerus Eruptus date de 68. Là, nous étions en 70 avec justement Gary Yoder, qui avait joué dans le groupe précédent CAC, et qui, proposaient quand même un blues un petit peu plus apaisé, beaucoup plus planant, comme ils pouvaient se retrouver. On pouvait le retrouver chez le disquaire de l'époque. Un groupe qui avait fait aussi pas mal parler de lui, qui avait porté les couleurs du rock psyché de San Francisco du côté du Festival Monterey, c'était bien Moby Grape, un groupe qui avait la particularité de proposer 5 musiciens, on va dire, qui se complétaient à merveille. Les 5 jouaient n'étaient peut-être pas multi-instrumentistes, mais ils étaient tous capables de chanter en alternance. Et on peut aussi signaler l'existence au sein du line-up, du groupe, de Skip Spence, Alexander Spence, qui avait commencé sa carrière au sein du Jefferson Airplane avant que Spencer Dryden le remplace. Alors Moby Grape était connu aussi pour ses frasques. Ils avaient été poursuivis par la justice pour détournement de mineurs, et que ils étaient un peu sous la coupe d'un promoteur assez excentrique et un peu véreux, Matthew Katz, qui leur avait quand même malgré tout permis de signer un contrat assez juteux chez Columbia. Et la dernière particularité du premier album du groupe, il comprenait dans les 10 titres 5 singles. Donc Columbia avait rêvé de lancer le groupe comme une vulgaire, on va dire, machine à laver ou un objet quelconque, en inondant le marché avec les 5 singles pour en faire vraiment pour faire le buzz. Alors ça avait pris à San Francisco, mais au niveau national peut-être. Par contre, c'était un groupe qui s'était pas énormément qui n'avait pas été très bien reçu à l'étranger, pas aussi bien que les Burns ou toutes les têtes d'affiche qui étaient un petit peu en activité à l'époque. Moby Grape avait cette réputation à la fois ultra compétente musicalement parlant, mais assez sulfureuse humainement parlant. On va écouter justement un extrait de leur premier album qui restera un petit peu dans les annales comme un condensé parfait du rock psyché Made in San Francisco. Sweet Ride, on a pour 5 minutes, c'est du pur bonheur.
Let me die.
crois qu'on peut dire que Moby Grape était clairement un petit peu en avance sur son temps avec son premier album éponyme qui avait fait un peu le buzz. Ils en avaient quand même pas mal vendu aux États-Unis. C'était porté par des titres emblématiques comme Omaha et puis là c'était Rounder. Alors Sundance, le fameux label que j'adore américain, s'était amusé justement à sortir des bandes issues des sessions, des premières sessions du groupe, notamment avec ce titre un petit peu à rallonge, puisqu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils se sont un petit peu lâchés, c'était en fin de morceau, c'était un peu du grand n'importe quoi, mais restaient quand même assez virtuoses et assez même extrêmement compétents sur leurs instruments. Alors ça avait permis au groupe de durer jusqu'en 72-73 et de faire un peu le crochet entre les modes successifs. Ils sont passés d'un contexte psyché basique avec des guitares très flamboyantes et puis surtout ces joutes vocales caractéristiques. Après, ils sont passés sur un registre un peu plus rhythm and blues avant d'emboîter le pas sur le country rock qui était un peu à la mode au début des années 70. Et ça n'a pas empêché à Skip Spence d'alimenter sa toxicomanie galopante. Et je crois même qu'il y a une anecdote comme ça, c'est qu'une fois, il s'était appliqué en studio avec une hache, complètement survoltée et puis sous influence de LSD. Il avait menacé justement carrément de tuer ses compatriotes, enfin ses petits copains de studio, sous prétexte que il était défoncé et que personne ne voulait jouer avec lui. Voilà ce qui pouvait un petit peu caractériser le côté erratique du caractère du groupe. Et puis pour finir avec Skip Spence, il est propriétaire d'un album un petit peu emblématique et puis très très nébuleux, le cultissime O.R. Hein, qui fait un petit peu la jonction entre le rock psyché de San Francisco, le country comme il se faisait à Nashville à l'époque Grand Joplin, et puis le côté vraiment caverneux de sa voix qui fait penser à celle d'un Syd Barrett. O.R. Alexander Spence qui va bénéficier dans les mois à suivre d'un traitement de luxe puisqu'il va être édité avec 3 CD dont 2 CD d'inédits. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont mettre sur les 2 CD suivants. Il y aura forcément des choses assez effrayantes, il faut le dire. Et puis on avait évoqué aussi dans l'histoire du son de San Francisco, les filles, on ne les a pas encore écouter d'une façon durable dans ce programme. On va écouter justement un extrait du premier groupe, du répertoire du premier groupe de Grace Slick qui s'appelle Great Society et qui eux aussi officiaient au tout début, enfin à la moitié des années 65, c'était contemporain des Charlatans. Alors pareil, des pionniers un petit peu d'un folk rock lysergique. On va écouter Free Advice et puis derrière on écoutera parce que c'est des titres relativement courts et puis le temps passe vite. On écoutera un extrait de l'unique album de Love Exchange. Restez bien à l'écoute de Campus Grenoble 90.8, c'est Rocco Juy, l'émission à remonter l'histoire du rock. I wonder who it is you love, who you want to. Voilà ce qui marque un petit peu la fin de ce voyage un petit peu chaotique en terrain lysergique. C'était un hommage justement à la scène de San Francisco psychédélique et puis conjointement à un hommage à la disparition soudaine de Martin Balin, le fameux chanteur du Jefferson Airplane. Je vous dis ciao bye à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en terrain recologiste. Restez bien à l'écoute de Campus Grenoble 90.8. Ciao bye.
2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hey, oh, let's go.
Rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie.